Bonjour, Françoise Tressard, la belle équipe en piste pour une récré tout amour, enregistrée en public à la Maison de la Radio le vendredi 4 novembre dernier. C'était notre deuxième rendez-vous au 105, le studio où nous avons élu domicile cette saison, pour un enregistrement public de 2h30 toutes les 5 semaines. Beaucoup de plaisir, de travail, de rencontres avec vous, et c'est bon de se parler. Et comme le monde est morose, la vie difficile pour beaucoup, le souvenir des attentats si présent, il m'a semblé que nous avions tous besoin d'amour. C'est donc avec l'amour et amour que nous avons joué ce soir-là. Vos rires, vos applaudissements, votre complicité affectueuse, l'amitié, tout était palpable et doux. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, cette soirée des papous tout amour est à découvrir en 2 dimanches et demi. Et oui, l'amour offre un programme nourri. Avec moi, sur la scène du 105, côté filles, Sophie Divry, Odile Conseil, Eva Almassi, Jeanne Carillon, Gabriel Godard. Côté garçons, Jean-Bernard Pouilly, Lucas Fournier, Patrice Caumont, Patrice Minet, Gérard Mordillat, Hervé Le Tellier, la parité exceptionnelle. Et pour lancer ce numéro des papous dans la tête, tout amour, un aperçu du programme par Jeanne Carillon en chanson avec Gabriel Godard pour le chœur et le piano. Sur l'air des sauvages de Rameau.
Papou public, quel générique, l'amour, tout un programme pour réchauffer vos cœurs. Faut que ça titille de ride, vos zygomatiques avec ardeur. Papou qui pique, on fait la nique. Jamais un calembour n'est trop mauvais pour nos cœurs. S'ils sont risibles, s'ils sont audibles, pitié, ne ménagez pas vos clameurs. Connaissez-vous ces têtes? 12 papous, 6 couples, 6 filles, 6 garçons. Ciel, ciel, quelle assemblée! Dans les chaumières, ça va jaser. Papou public, papou festif, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. Si vous êtes sensible, si vous êtes habile, oh Dieu, le TLA aura toutes vos faveurs. Jouissons des périphrases, bourrimons, oui, c'est l'occasion. Ah, protestons un peu, les pamphlets, ça rend heureux. Papou public, papou lyrique, chantons, jouons, rimons, rythmons, rions tous en chœur. Voici la clique des papous en musique. À vous d'embraser la radio, chers auditeurs.
J'ai confié à Jean-Bernard Pouilly, c'est lui, une tâche très difficile et en même temps très agréable. Il s'agissait pour lui d'écrire un exercice de style sur l'amour. Et il a tout de suite dit oui. Même pas peur, Jean-Bernard Pouy. Jamais peur de rien. Et écrire un exercice de style sur l'amour en une seule phrase, ça il adore, de 4 minutes, qu'il va nous dire en apnée, en quelque sorte, c'est du Pouy Marcel ou du Jean-Bernard Proust.
Non.
Allez, c'est parti.
Ah, quel beau mot, l'amour. Que c'est beau, l'amour. Ça rime avec boulgour, c'est dire. Mais il faut bien admettre que l'amour est une machine à métaphores. Ça n'arrête pas, les métaphores. L'amour est enfant de bohème. Mais pas besoin d'aller à Prague pour le découvrir, l'amour, qui rime d'ailleurs avec topinambour, dont les tchèques sont friands. Mais c'est aussi comme une coulée de miel sur les rotondités d'une bétonnière, l'amour. La preuve, ça rime avec balourd, car c'est une illumination, une révélation, une maladie, une panne d'essence, une malédiction, un coup de bambou, une décharge électrique, le passage d'un éclair. L'amour qui vous rend sublime ou un peu crétin. L'amour consiste à être bête ensemble, écrivait Paul Valéry. L'amour met plein d'étoiles dans vos yeux ou un peu de bave au coin des lèvres. Ça vous attend dans un coin sombre pour vous damner à jamais et vous ne vous y attendez surtout pas. L'amour est dans le pré, comme un rocamadour, puisque ça rime, ou dans un salon coquet et tiède, sous la douce lumière d'un abat-jour. Là aussi, ça rime. Ambiance Pompadour, ma foi. Et c'est sans parler de Stendhal qui ne pensait qu'à ça, et vos Proust. Même Swann a vécu l'amour. Dans un salon tranquille, où de vautour, vous devenez troubadour. Ça rime encore. L'amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l'imagination, pérorait Voltaire. Mais revenons à nos moutons, à nos métaphores chéries. L'amour est le sécateur qui vous permet d'embrasser un cactus. C'est l'huile.
Ça, c'est trop beau.
C'est l'huile qui lubrifie votre moteur à explosion. Ah, ouais. Quand votre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, c'est l'amour qui s'éveille. Encore un poète qui n'a pas traité à comparer l'amour à de la dynamite. L'amour est un fleuve puissant, et pas uniquement entre la Russie et la Chine. L'amour est la perceuse qui vous permet d'accrocher un beau tableau dans un mur en béton. Le vase qui recevra le plus fourni de vos bouquets. La venue boueuse parsemée de fleurs sauvages. Car amour rime avec faubourg. L'autobus où il y a une place assise dans le sens de la marche. Le train qui arrive à l'heure. Un coucher de soleil rose tyrien et jaune cadmium pâle. Un chant d'un vert intense moitié de vache blonde, car amour rime avec labour. Il ne faut pas non plus oublier l'amour vache. C'est aussi avec récolte l'amour des trois oranges. Et puis sans pain ni vin, l'amour n'est rien, dit le proverbe. Et comme le précise le poète Novalis, l'amour n'est rien d'autre que la suprême poésie de la nature. Ou comme le précise également un proverbe danois, l'amour est fatal, il tombe aussi bien sur l'oignon que sur le lys. L'amour, c'est un géranium impeccable et cossu sur un balcon suisse. Ça rime avec Fribourg. C'est le regard de l'être aimé au petit matin, même avec des pulls molles au coin des yeux. Oui, amour rime avec bonjour. Et l'amour triomphe de tout, même des primaires, des impôts, des notaires et des réunions de copropriétaires. Car vaut mieux aimer en enfer qu'être sans amour au paradis. Et puis l'amour est si vaste, il mène le monde à l'amour, celui de son prochain. Car amour rime avec secours, l'amour du métier, du gain, du bien, de la justice, de la vérité, des voyages, l'amour des belles choses, l'amour de la performance. Car amour rime avec concours, l'amour vénal, car il peut rimer avec belle de jour. Il n'est pas sale puisqu'on a de l'amour propre. Et oui, amour peut rimer avec humour, voire avec calembour. L'amour de l'art, bien sûr, qui vous le rend bien, mais tout cela sans l'accumulation primitive. Il vaut mieux user de métaphores. D'ailleurs, en grec, métaphore veut dire transport. Et le plus beau des transports, c'est bien évidemment le transport amoureux. L'amour, c'est comme un verre de vin inattendu un soir où l'on a soif. N'oublions pas le Saint-Amour, qui colle en vous comme le petit Jésus en culotte de velours, qui rime avec amour. L'amour, c'est comme une jaguar bleu pâle glissant sur l'autoroute. Entre chien et loup, amour rime avec contour, et ça rime aussi avec détour quand la voiture prend des chemins de traverse et découvre le petit village médiéval nimbé de brume mauve dans lequel on revient une heure après avoir quitté un vrai aller-retour d'amour parce qu'on veut le découvrir à contre-jour, qui rime encore avec amour. On le trouve partout, l'amour, et pas que dans les soirées à petit four, dans un château de Brandebourg, le soir d'une chasse à cour, mais aussi dans les arrières-cours et les basses-cours. Tout cela, vous l'avez remarqué, ça rime. On a l'impression tenace que l'amour rime avec discours, avec les déclarations, les petits mots, les lettres et les chansons, les poèmes et les romans, mais aussi avec les actes, les crimes. Bref, toute une vie d'amour, un parcours qui parfois ne se satisfait que d'eau fraîche. Et même s'il n'y a pas d'amour que des preuves d'amour, même si, comme l'a séné Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Qu'importe, l'amour triomphe de tout, de la différence, de la tristesse, de la guerre, de la médiocrité, de la maladie. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. L'amour rend fou, fou d'amour. L'amour fou a sauvé les surréalistes de la platitude en devenant libre, a illuminé l'ennui des années de jeunesse, en le peignant en vert, celui des amours enfantines, et à énerver le printemps, la saison des amours, pour éviter de rester béat devant la sève qui monte, qui monte, qui monte. Mais élevant le débat, l'amour n'est pas que neuneux ou gnangnan, il occupe aussi des vraies valeurs, le papa, la maman, la petite sœur, le grand frère. L'amour peut être légitime, mais s'il est souvent illégitime, et sent plus le soufre que le benjoin, et concerne d'autres valeurs dont certaines ont tendance à nous mener à notre perte, l'amour de Dieu ou l'amour sacré de la patrie, attention, on ne le badine pas avec l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage, et rage pourtant ça rime avec cage, l'amour en cage, une des plus jolies fleurs, un amour de fleurs si l'on peut dire. Prévert disait, la vie est une cerise, la mort est un noyau, l'amour un cerisier, mais je vous vois déçu, vous attendiez tous le coup de grâce, et bien le voilà, qu'on se le dise, amour rime avec toujours.
Et c'était un exercice extrêmement physique que cet amour de Jean-Bernard Pouy. Alors on va jouer aux dissertations, mais dissertations façon papou. Et ces dissertations seront écrites devant vous pendant que nous continuerons à jouer à autre chose. Et elles seront écrites par deux philosophes en herbe, on peut dire, enfin en herbe folle plutôt, Patrice Caumont et Jean-Bernard Pouy, qui vont donc avoir chacun un sujet de dissertation. Les sujets ont été imaginés par Hervé Le Tellier, Odile Conseil, Patrice Minet et Eva Almassy, mais ils ont quatre sujets au choix, donc deux chacun, à eux de décider quel sera leur sujet. Et ces sujets, eh bien, les examinateurs, on peut les appeler comme ça, avaient pour mission de les écrire en les faisant reposer sur une citation, enfin une fausse citation qu'ils ont imaginée, dont ils ne donneront que deux mots aux candidats d'imaginer les autres mots autour de ces deux mots, et puis ensuite eh bien, de rédiger à la lueur de cette nouvelle citation. C'est compris, la règle du jeu est claire, Patrice, Jean-Bernard ?
Oui.
Oui.
Bon, alors Jean-Bernard Pouy, il n'a pas révisé la philo depuis le bac, donc ça fait
70 ans.
Patrice Caumont est philosophe de cœur. Il a un petit peu plus les notions en tête, quoique il joue surtout beaucoup avec. Non, mais je disais quoique, c'était pas méchant, Patrice, voyons.
Reste là.
Voilà, reste là. Alors, il y a quatre sujets, enfin quatre noms d'auteurs de sujets. Allez, c'est vous qui tirez en premier, Patrice Caumont. Allez-y. C'est un sujet de qui ?
Odile Conseil.
Alors, si Odile Conseil, eh bien, vous lisez votre sujet à Patrice pour qu'il s'en imprègne.
Alors d'abord, la citation tronquée. Talala, 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 partage. Talala, 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 excavatrice. Talala, talala.
C'est deux mots intéressants. Hein.
En commentant cette citation de Karl Marx, extraite de « La solidarité, c'est capital », vous vous demanderez si les relations humaines relèvent de la nature ou d'une construction, voire d'un simple bricolage. Vous n'hésiterez pas pour ce faire à en appeler aux grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui et à vos propres expériences familiales, amicales et amoureuses.
C'est pas mal, non ? C'est un joli sujet, hein ? Elle a fait un effort parce qu'elle non plus n'a pas revu tout ça depuis le bac.
Un certain temps.
Voilà. Donc vous avez le temps, vous réfléchissez pendant que Jean-Bernard Pouy tire un premier sujet possible. Qui sera un sujet de qui, Jean-Bernard ?
Ah, c'est un beau sujet. Patrice Minet.
Ah, un sujet de Minet. Ça, c'est bien. Enfin, oui. C'est bien, on va voir. Hein, on va voir.
À la vieille question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Certains pourraient répondre, aboutissant ainsi, ironiquement, au savoir socratique de sa propre ignorance, et pourquoi pas ? Et d'autres de rétorquer, et pourquoi pas pas. En vous appuyant sur votre connaissance de la maïeutique et votre histoire personnelle,
ah, ça c'est bien, oui.
Et en prenant comme point de départ la citation de Luc Ferry, « La 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 la, naphtaline, la 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 la, Platon, la 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 », montrez comment cette réflexion se régénère avec les réflexions suivantes. Premièrement, pourquoi y a-t-il quelque chose ? Deuxièmement, pourquoi y a-t-il? Troisièmement, pourquoi? Et enfin, quatrièmement, de quoi? Sans oublier, et pourquoi moi?
Ah, c'est très très bien comme sujet. Évidemment, c'est tentant, Jean-Bernard Puy, mais vous allez quand même découvrir un autre sujet avant de vous décider.
Oh non.
Allez, Patrice Caumont tire son deuxième sujet. Ben, il ne les traitera pas tous les deux. Hein. Si quelqu'un parmi vous
Eva
veut en traiter un. Eva Almassi, oui. Alors, sujet d'Eva.
La citation d'abord. Blablabla, touché. Blablabla, petit oiseau. Blablabla. En vous servant de cette citation du discours de la méthode de Descartes et à l'aide des philosophes des Lumières, éclairez-nous sur cet obscur objet du désir. Qu'est-ce qui le véhicule dans nos vies? Est-ce le sens, l'essence ou l'essence? Est-ce un avion, puisqu'on parle des ailes du désir? Est-ce un tramway, puisqu'il emporte le nom? Est-ce un 3 tonnes, puisque l'objet de notre désir est souvent beau comme un camion et que la passion est un excès de désir?
Ah oui, c'est bien, ben oui, oui. Alors, je suppose qu'il y avait un des essences qui était E2SENCE. Hein.
Ben oui,
c'est ça, vous aviez compris, Patrice Caumont.
Non, j'ai rien compris, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Vous voulez réfléchir encore deux secondes?
Ah non, je prends...
Alors, vous choisissez quel sujet? Odile Conseil ou Eva Almassi?
Ben, je vais prendre quand même Toucher petit oiseau, uniquement parce que le texte sur le partage de Marx me fait peur. Quand même.
Ah bon, oui, Marx fait toujours un petit peu peur.
Je suis pas compétent.
C'est vrai. C'est vrai. Donc, vous choisissez le sujet d'Eva Almassi, elle vous le remet.
Merci.
Voilà. Et maintenant, Jean-Bernard, puis ben, il reste un papier pour vous.
Eh oui. C'est forcément Hervé Le Tellier. Alors là,
oui, bah oui, attention, c'est un sujet d'Hervé Le Tellier.
Voilà, je regrette que ça soit moi, mais c'est moi. Voilà. Oui. Alors, à partir de cet extrait d'une lettre de Marx, envoyée à Engels le 11 janvier 1873, cette date est importante. Nanana, 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 idéaliste, nanana, 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 crème anglaise, englische Sahne, nanana, nanana, nanana. Vous démontrerez que, entre ce qu'il est convenu d'appeler idéalisme et ce qu'il convient de définir comme matérialisme, la rupture est de nature épistémologique, et ce, à partir d'autres exemples aussi concrets, tirés de votre propre expérience, en particulier en matière culinaire et ou sportive.
Ah ben, j'ai parlé de sport tout à l'heure avec vous. Hein?
Oui, alors, un, je ne sais pas faire la cuisine, et deux, je ne suis pas sportif. Bon. Donc je prends le sujet de Minet.
Allez, donnez-lui votre sujet. Bon, oui, ils sont très courageux, hein, quand même. Alors, les papous dans la tête, les papous tout amour au studio 105. C'est la récré de France Culture. Alors, on va jouer au diagnostic littéraire à l'aveugle. Est-ce que vous avez des textes à distribuer, s'il vous plaît, Lucas?
Oui.
Allez-y avant de faire la lecture. Voilà, un pour Sophie Divry, un pour Eva Almassi, pour Patrice Minet, pour Hervé Le Tellier. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagnostic littéraire à l'aveugle? Si vous écoutez les papous dans la salle, vous connaissez le jeu, non? Vous écoutez ou pas? Vous êtes auditeur ou vous êtes nouveau? Oui? Bon, alors je rappelle pour les deux, trois personnes qui ne connaîtraient pas. Lucas Fournier a une énorme bibliothèque chez lui, pleine de bouquins de tous les genres. Alors, il s'est posté devant sa bibliothèque, il a attrapé un bouquin, il l'a feuilleté, il l'a remis, ça lui plaisait pas, il en a pris un autre. Et là, il a commencé à lire et il a trouvé un extrait de littérature qui l'intéressait pour notre jeu. Une quinzaine de lignes à la lecture. Et il s'est dit, c'est un bon piège, je vais le proposer à mes amis pour la soirée des papous. À eux de deviner, parce que quelle est la question au final de ce jeu, c'est de deviner, c'est pas le bon mot d'ailleurs, c'est d'argumenter pour arriver à trouver l'auteur de ce petit bout de littérature. Pour ça, il faut être très cultivé, parce qu'il faut avoir en tête le style des grands écrivains. On joue avec des grands écrivains, a priori très connus, mais enfin, on connaît pas tous la même chose non plus, hein. Et donc, je vous demanderai votre avis dans la salle, puisque vous connaissez le jeu, vous y jouez chez vous, non? Ouais. Alors, l'amour propre, C'est un moment tout amour, là, avec les papous. L'amour propre, il est parfois un petit peu frictionné, mais c'est pas grave. Et puis ceux qui vont jouer, Hervé Le Tellier, Patrice Minet, Val Massy. Sophie Divry, elle est toute nouvelle, elle a un an de papou, donc son amour propre est encore à peu près en forme. Mais les autres se sont déjà beaucoup trompés. Enfin, pas tous, parce que Patrice Minet et Val Massy ont parfois des fulgurances. Hervé Le Tellier a parfois des très bonnes idées. En général, il voit des pistes russes, puis change d'avis. Alors que parfois, il ne devrait pas, quoi. Allez, on écoute le texte. Vous nous faites la lecture, Lucas.
C'est un texte qui parle d'amour, de désir et de chaleur en ces temps frisqués. Chacun d'eux avait le sentiment séparé qu'il sentait et pensait séparément. Et cependant qu'il ne fallait pas dormir. Nous sommes trop près, mais pas assez près. Aussi, il s'impatientait. La température était devenue plus lourde. Les nuages avaient disparu. Il y avait partout du soleil. Le paysage illuminé de soleil était devenu silencieux, immobile, sans relief. Les vaches ne bougeaient plus. Le mur de briques, au lieu de protéger, réfléchissait la chaleur. Le vieux monsieur Olivier soupira profondément. Sa tête s'abaissa. Sa main tomba. Elle tomba à un pouce de la tête du chien couché sur le gazon à côté de lui. Il la releva brusquement et la posa sur son genou. Gilles avait les yeux fixes, ses mains jointes en serrant ses genoux. Il regardait fixement les champs sans relief, immobile, regardant fixement. Il restait silencieux. Isabelle se sentait prisonnière. À travers les barreaux de sa prison et à travers l'effluve du sommeil qui les déformait, des flèches émoussées la poignaient, flèches d'amour puis de haine. À travers le corps des autres gens, elle ne sentait passer ni l'amour ni haine distinctement. Très consciemment, elle éprouvait, elle avait bu du vin sucré au lunch, le désir de boire de l'eau. « Un anap d'eau froide ! Un anap d'eau froide » répétait-elle.
C'est un beau texte, hein, on reste un peu muet. Ah, vous l'avez aimé dans la salle ?
Non. Il fait chaud.
Il y a des personnages, ça crée des images. Est-ce que vous avez... Ah, d'abord, une question, Hervé Minet, Eva, Sophie, si vous connaissez ce texte, vous ne pouvez pas jouer, bien sûr. Alors, comment êtes-vous face à lui, Vierge ?
Je n'ai jamais lu ça.
Mais ça... rien de semblable.
Bon, Minet, Hervé...
Ah bah, non. Si je l'avais lu, je m'en souviendrais.
Et Hervé ?
Non plus.
Bon, alors, une première impression, Hervé Le Tellier, comme ça.
C'est très maîtrisé. C'est une écriture dans laquelle la répétition joue un rôle à chaque fois.
Oui.
C'est un texte contemporain. Il y avait partout du soleil, le paysage illuminé de soleil, etc. Il regardait fixement les champs, et puis juste après, immobile, regardant fixement. Bon, donc la répétition est gérée comme un objet littéraire, oui, véritablement. Donc c'est assez puissant. Oui. Je pense que c'est contemporain. Le mot anap nous éloigne un peu de la contemporanéité.
Oui, c'est peu. Mais bon, plus ancien, ça, c'est le Moyen Âge, non ? Hein,
c'est
une vasque dans laquelle on buvait, c'est ça ?
C'est un mot ancien. Oui.
Patrice Minet, une première impression.
Alors, je ne comprends rien à ce texte.
Merci.
J'ai l'impression que Sophie est d'accord avec vous.
C'est vrai qu'il y a des répétitions, mais ça ne m'éclaire pas. Il y a des tas de trucs, il y a des gens, des vaches, des murs. Rien ne se passe. Il fait chaud, il fait froid, c'est pas la nuit. Voilà, et il y a un silence qui s'est installé. Et j'aurais aimé aussi pouvoir garder le silence.
Mais voilà. C'est mal parti.
Voilà, c'est une espèce de prison. Comme à travers les barreaux de sa prison, Patrice Minet ne trouvait rien à dire sur ce texte.
Ça va venir, on va passer à Eva Almassy. Dites-nous, Eva.
Apparemment, monsieur Olivier est vieux. Est vieux, donc lui, il soupire. Les autres pensent et sentent séparément. Alors oui. Ça, je sais pas ce que c'est. Et surtout un sentiment séparé. Donc moi, j'ai pas du tout de sentiment séparé par rapport à mes collègues et je suis perplexe.
Ah, pareil. Et vous, Sophie?
Uniment perplexe.
Sophie Divry.
Je pense que tout s'explique parce que je ne comprends rien d'autre. Sinon, la seule raison, c'est que elle avait bu du vin sucré au lunch, beaucoup trop, donc oui. Il y a un excès. Et donc peut-être après, une partie fine, comme on dit,
oui.
Ils sont séparés mais ensemble, plusieurs personnes contre un mur. Oui. Et à travers les barreaux de la prison, à travers l'effluve du sommeil, il ne fallait pas dormir. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. C'est-à-dire que je ne comprends rien non plus. Peut-être que le chien couché sur le gazon est la clé de l'histoire.
Peut-être. Vous comprenez dans la salle ce texte? Non, il n'y a pas une personne qui comprend.
C'est écrit en français. Hein.
Bon, 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 vous avez trouvé un sacré piège, Lucas Fournier. Alors bon, ils sont formidables, nos experts. Ils vont dire des choses qui vont nous faire progresser. Je sens, Hervé, un petit air malin.
Oh là !
Il a trouvé quelque chose.
C'est peut-être quelque chose. Un rôle entièrement de composition.
Ouais. On est dans une matière écrite directement en français.
Oui.
À quoi vous voyez ça ?
J'ai une sensation d'écriture directement en français. J'ai vaguement l'impression que dans d'autres langues, ça donnerait des effets différents. Mais vraiment, ça.
Genre quoi ? Voilà.
Mais par exemple, chacun avait le sentiment séparé qu'il sentait et pensait séparément.
Oui.
Ça utilise un aller-retour entre le participe passé et l'adverbe qui est très français. Donc. Alors, il y a des choses qu'on peut se poser. Nous sommes trop près, mais pas assez près. Quel est ce « nous » qui apparaît ? On ne sait pas très bien ce que c'est. On a l'impression quand même
que... Peut-être les personnages sont mentionnés.
Oui, oui. Mais on voit bien que c'est un texte qui est un texte qui... Après... Dans ce texte-là, ce n'est pas un texte du « je ». Donc, le « nous » fait apparaître quelque chose qui est de l'ordre de l'observation extérieure, comme si on avait des narrateurs qui ne sont pas présents et qui regardent quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, je trouve ça assez bizarre. Je me demande bien ce que fait ce « nous ». Nous sommes trop près, mais pas assez près. Voilà. Aussi, ils s'impatientaient. On voit que ce sont des gens vers qui on a cette impression que les narrateurs s'approchent.
C'est peut-être un tableau, non ?
Ah.
Oui, c'est du rose à bonheur pour les vaches, mais à part ça.
Oui. Peut-être un tableau, mais alors un tableau de quoi ?
C'est un tableau animé, puisque nous avons quand même
Patrice
Minet. Une grosse action.
Une grosse action,
une grosse action.
Une grosse action, oui. La tête s'abaissa, la main tomba. Nous avons deux choses. C'est rare dans les tableaux, à moins qu'elle tombe par terre, parce que la toile est très vieille. Voilà, elle tombe à un pouce de la tête du chien, couchée sur le gazon à côté de lui. Il la releva brusquement. Alors ça, on se demande, qu'est-ce qu'il a relevé brusquement ? Et la posa sur son genou. Qu'est-ce qu'il a posé, quoi, sur le genou ? Alors on pourrait penser, effectivement, que c'est en français. Je me pose la question.
Le 1 pouce est étonnant, hein ?
Mais oui.
Le 1 pouce, oui.
Bah oui, c'est le 1 pouce, c'est la distance exprimée en pouce, mais bon, pourquoi pas.
C'est du vieux français.
Ou alors c'est un mot en trop, elle tombe à 1 pouce.
Oui, Eva, éclairez-nous un petit peu.
Alors, moi j'ai des hypothèses, quand même. Peut-être qu'il y a eu une sorte d'hypnose collective, ou alors ils ont bu la même drogue, donc plus grave que le vin sucré au lunch. Et c'est pour ça qu'ils devraient avoir peut-être le même type d'hallucination. Or, chacun hallucine séparément, et moi aussi, j'hallucine. Donc,
cette
drogue est très puissante et qui donne chaud.
Oui.
Et à part les verbes qui sont répétés, tomber, on a aussi une autre répétition que des adverbes, profondément, brusquement, fixement, distinctement, consciemment, qui me font penser que c'est une écriture qui fait dans la caricature d'elle-même.
Ah bon? Donc,
oui, parce qu'il y a des signes stylistiques tellement trop forts, trop soulignés. C'est pas pour raconter l'histoire. C'est pour faire ce texte-là ou cette hallucination-là.
D'accord, c'est un texte sous drogue pour vous, Sophie Divry?
Oui, alors je ne sais pas ce que prennent les Anglais, mais moi je vois bien ça en Angleterre.
Ah bon ?
Oui, mais toujours, je pense qu'il y a toujours une partouze dans l'air.
Non,
parce que nous sommes trop près, pas assez près, et ils s'impatientaient, on sent qu'il y a un désir contrarié. Alors, ça peut être la drogue, mais c'est les Anglais. Les Anglais, on connaît, on démeure, légères. Mais, parce qu'il y a Monsieur Olivier, et c'est écrit Mister
M. C'est pas parce que c'est le Brexit que...
Non, mais... Le pouce, voilà, c'est le pouce.
Non, c'est monsieur.
Et puis surtout, le lunch, bon, on ne dit pas trop le lunch. Et le gazon, il y a un chien couché sur le gazon, ça, je crois que ça fait très anglais.
Ah oui.
Et la brique. Alors, le soleil me gêne un peu, mais alors...
Pour l'Angleterre.
Dans le désir ardent, très bien écrit, n'est-ce pas, Isabelle se sentait prisonnière à travers les barreaux de sa prison. Bon, ça fait un peu traduit, parce que c'est un peu lourd.
Non, je m'inscris en faux. Il y a d'excellents traducteurs qui respectent absolument la prose des auteurs qui traduisent.
Parfois, non, c'est mieux. Il n'y a que les Anglais pour écrire ça.
Parfois,
non,
c'est mieux. Ouais, ouais.
Un Français n'a pas écrit ça, je m'insurge. C'est pas possible.
Ah bon, vous ne croyez pas. Alors, Patrice Minet, est-ce que cette vision d'Eva et de Sophie vous a fait progresser un petit peu?
Puis un Français ne dirait pas le désir de boire de l'eau, ça n'a pas de sens.
Ça, c'est pas mal vu, oui. Ouais. Minet, on progresse avec tout ça?
Oui, bien sûr, on progresse. C'est quand même un texte intéressant, néanmoins,
oui.
Car effectivement, il est écrit d'une manière très particulière.
Oui.
Toutes les deux phrases, on répète des mots des phrases précédentes,
oui.
Et même des groupes de mots. Par exemple, sans relief, immobile se retrouve à la fois dans le paysage illuminé de soleil était devenu silencieux, immobile, sans relief. Et un peu plus tard, on a ses mains jointes en serrant ses genoux, il regardait fixement les champs sans relief, point, immobile, regardant fixement. Voilà. On sent que l'auteur était un petit peu en panne. Donc, ou alors, c'est un effet de style.
Ah.
Voilà. C'est un effet de style accablant. Personnellement, je ne suis pas farouchement... Je ne défendrai pas ce texte. Voilà.
Ah bon ? Ouais. Non. Écoutez, on va le réécouter, Lucas Fournier. Peut-être dites-le plus joyeusement, je sais
si
pas,
vous voulez.
Différemment.
D'accord, joyeusement. Chacun d'eux avait le sentiment séparé qu'il sentait et pensait séparément.
Ben voilà.
Et cependant qu'il ne fallait pas dormir. Nous sommes trop près, mais pas assez près. Aussi, il s'impatientait. La température était devenue plus lourde. Les nuages avaient disparu, il y avait partout du soleil. Le paysage illuminé de soleil était devenu silencieux, immobile, sans relief. Les vaches ne bougeaient plus. Le mur de briques, au lieu de protéger, réfléchissait la chaleur. Le vieux monsieur Olivier soupira profondément. Sa tête s'abaissa. Sa main tomba. Elle tomba à un pouce de la tête du chien, couché sur le gazon à côté de lui. Il la releva brusquement et la posa sur son genou. Gilles avait les yeux fixes.
Il y a de l'action, écoutez, oui, quand même.
Ses mains jointes, en serrant ses genoux, il regardait fixement les champs sans relief, immobile, regardant fixement. Il restait silencieux. Isabelle se sentait prisonnière. À travers les barreaux de sa prison et à travers l'effluve du sommeil qui les déformait, des flèches émoussaient la poignée. Flèches d'amour, puis de haine. À travers le corps des autres gens, elle ne sentait passer ni amour ni haine distinctement. Très consciemment, elle éprouvait, elle avait bu du vin sucré au lunch, le désir de boire de l'eau. Un nappe d'eau froide, un nappe d'eau froide, répétait-elle.
Oula. Bon, Eva Almassi, dites-moi, est-ce que cette nouvelle lecture vous fait trouver des idées?
Mais sous cette nouvelle lecture, comme un sous-titrage, j'entendais l'anglais très justement avancé par ma camarade Sophie, et je pense que il y a là quelque chose à creuser. Ça peut être un texte anglo-saxon, donc encore plus court que ça, avec des prénoms français ou des noms français, puisque c'est peut-être un auteur, peut-être même un américain, qui a séjourné à Paris.
Vois que vous avez une idée.
Plus à Paris, peut-être qu'à la campagne, parce que la description de la campagne n'est pas...
Hervé Letellier, une idée de l'époque?
Moi, bon, premièrement,
de l'époque d'écriture.
Je pense que c'est vraiment français. Je tire de deux choses. D'abord, en dehors des prénoms, ce qui me semble une fausse idée, elle avait bu du vin sucré au lunch.
Oui.
C'est évidemment français. C'est-à-dire que le mot lunch est un mot typiquement français. Sinon, on traduit. Et donc, on traduit au déjeuner, ce qui est absurde. Et donc, garder le mot lunch nous emmène vers les années 30-60.
Ouais.
C'est un moment dans lequel il y a des lunchs.
Ouais.
Et donc, voilà, ça c'est là une
Il est très très malin.
Hein.
Oh là non,
là.
Pas
oh là là. Bon, elle tomba à un pouce, ça ne me dérange pas du tout. C'est une formule littéraire, personne n'écrirait. Elle tomba à 3,7 cm de la tête du chien couché. Donc, ça me semble absolument pas une indication quelconque d'une unité de mesure. C'est juste une distance littéraire. Voilà.
Ouais.
Bon. Et puis, quelques centimètres, c'est moche. Donc, à un pouce, ça me paraît très. On
pourrait dire un doigt.
Voilà, un doigt. Enfin, comme c'est sa main qui tombe, si en plus elle tombe à un doigt, c'est un peu bizarre, quoi. Donc voilà, on est sur un texte français. Moi, j'ai une idée de nom possible.
Ouais, attendez, voilà. Encore un petit peu. Hein, quand même, Sophie, alors, cette piste anglaise non, mais en fait, que vous creusez.
Je crois que j'ai changé d'avis, c'est pire que ça. Non, c'est pire que ça. Je pense que c'est en effet un Français et une Française, parce qu'il y a quand même en effet des noms français, mais qui veut faire style anglais. Donc, pour un feuilleton grand public, quelque chose d'écrit assez vite comme ça, alors je mets quelques trucs anglais, les vaches. Vous bougez pas, s'il vous plaît. Le mur en briques. Et j'écris ça vraiment comme ça au kilomètre. Donc je prends le même mot, je répète 4 fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un nappe déjà ça m'est...
Un nappe, c'est. Allez, j'ai lu.
C'est dans la tirette du nez. Ah. Oui. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nappe. Oui. Un nappe, c'est ces grands vases qu'on buvait dans lesquels on versait le vin au Moyen-Âge.
Mmh. Voilà.
Peut-être que c'est un texte moyenâgeux. Beaucoup de choses.
Juste une question.
Oui.
Et qui sera utile peut-être pour les auditeurs. Il est écrit le mur de briques. Oui. Et briques n'a pas d'S. Donc c'est une... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que d'un seul coup, c'est un rapport à la matière. C'est un rapport beaucoup plus presque, dirais, matériel. Enfin,
c'est la matière brique et non pas les briques.
C'est assez beau comme formule, même au niveau de la lecture. On est. Il y a une petite nuance entre un mur de... Moi, je trouve que littérairement, il y a une petite nuance entre un mur de briques avec un S et un mur de briques sans S. Je trouve le mur de briques sans S plus littéraire. Voilà. Et donc, je voudrais savoir si dans le texte originel. Parce que si dans le texte originel, je trouve ça très, très intéressant.
Oh, non, sûrement, mais... Là, Lucas.
C'est très bien.
Oui. Non, Lucas fait très attention.
Il n'y a pas une faute de frappe, on est d'accord.
Il y a une virgule après, même.
Voilà, très bien.
Non, mais c'est quand même très mauvais. Là, des flèches émoussées, la poignée, flèche d'amour puis de haine. Enfin...
C'est joli, la non, poignée.
Tu joues pour la première fois ce jeu, je vois. Méfie-toi, t'avances pas trop.
Non, mais comme ça, mon amour propre, immobile, sans relief, silencieux, voilà.
Pour moi, tout ça, immobile, sans relief, même mur de briques, c'est l'autoportrait du texte lui-même. Ouais. Donc, c'est vraiment un ou une. Donc, c'est un faiseur ou une faiseuse. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais l'accepter.
Non, il faut juste chercher l'auteur.
Il faut être dans l'acceptation,
dans
laisser pénétrer
Eva.
dans l'amour de ce texte.
Oui. Patrice Minet, alors... J'ai l'impression que vous êtes un peu taiseux depuis 2-3 minutes parce que vous réfléchissez.
Oh, je suis totalement incapable de réfléchir. Par contre, tout ce qui se dit nous conduit dans une direction. Par exemple, l'idée de texte du Moyen-Âge, évidemment que ce n'est pas un texte du Moyen-Âge, mais quand même, nous avons des prénoms, Isabelle, Gilles,
Olivier,
qui font un petit peu Renaissance.
Ah bon ?
Nous avons ces flèches qui la poignent. Bon, c'est pas très fréquent aujourd'hui, mais à l'époque, les flèches poignaient. Même les flèches d'amour et de haine. Voilà. Et alors, nous avons aussi cette notation du vin sucré au lunch.
Oui.
Sommes-nous nombreux aujourd'hui à prendre du vin sucré au lunch ? Donc, ça pourrait nous permettre de...
Oui, un petit Mont Basillac, c'est sucré avec du foie gras, c'est délicieux.
Oui, ou du Sauterne.
Ouais. Ou du Coteau du Layon.
Alors, ils auraient marqué un Coteau du Layon au lunch. Parce que du vin sucré, on voit tout de suite le pauvre verre rempli de pinard blanc auquel on a ajouté un petit peu de sucre. Ouais. Je trouve que ça fait à la fois un petit peu démodé ou alors un petit peu maniéré. Et en y réfléchissant, comme ce texte est assez poétique, puisqu'il y a une musique qui est donnée d'une manière régulière par les répétitions, qu'est-ce que ça peut nous indiquer comme époque ?
Ben, c'est la question que je vous pose. Merci d'y répondre subitement.
Je dirais que soit c'est un texte qui est entre les deux guerres, entre 1920 et 1930, soit c'est un texte qui est dans les années 50-55, c'est-à-dire que...
56.
Ou 56 et demi. C'est-à-dire qu'il y a eu une école où on méprisait l'action.
Oui, c'est un peu le cas, là.
Où la psychologie n'était pas très approfondie. Voilà, c'était une espèce de surface sur laquelle on se promenait et qui ne tenait pas en haleine le lecteur. Voilà.
Oh, vous êtes injuste avec
c'est vrai, c'est exprès. Voilà. Et donc, pour moi, oui, ça date un peu le texte autour des années 50.
Bon, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de lancer des noms ?
Pourquoi il ne fallait pas dormir ? Est-ce qu'au fond, dans ces cas-là, si on exclut l'hypothèse de la partouze, ce ne serait pas, il y a une explosion nucléaire, ils sont en train de l'attendre, ou les extraterrestres sont en train d'arriver, il fait très très chaud, oui. Et ils sont tous à la fois tétanisés, en attente d'un événement, et donc dans cette espèce de sidération qui fait qu'ils sont à la fois tout seuls.
Ils luttent et contre ensemble. L'engourdissement.
Et là, à ce moment-là, voilà, ils mettent les mains sur les genoux, ils mettent les mains par terre, et les vaches ne bougent plus. Voilà. Même comme une espèce d'attente comme ça de l'apocalypse finale, où enfin l'auteur de ce texte serait écrasé.
Voilà. Mais c'est pas inintéressant.
J'ai noté ça, l'expérience post-nucléaire, parce que les corps sont entassés et on cherche quand même à garder son individualité. Mais en même temps, quand même, on nous parle d'amour, puis de haine, et je pense qu'on aurait d'autres préoccupations de simple survie si on était dans le post-nucléaire. Ouais.
Bon, allez, je sens qu'il faut jeter des noms. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur l'époque, évidemment, en parlant de post-nucléaire ou des années 20-30. Vous n'êtes pas d'accord sur écriture française ou traduction. Vous êtes juste d'accord sur le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc, c'est ça qui doit vous mener à donner des noms. Et je sens qu'Hervé Le Tellier en a un sur le bout de la langue.
Oui, moi, je pense que c'est un message subliminal envoyé au ministère de la Culture par notre camarade qui donc qui a décidé de rappeler que la consolidation n'est pas un titre de Michel Butor mais donc ça pourrait être Michel Butor. J'avais noté Rob Grillet et je me suis dit non, peut-être que c'est pas tellement Rob Grillet, tiens, mais en revanche Butor, c'est pourquoi pas, avec cette idée quand même que ben oui, la modification c'est peut-être bien de lui.
Ouais.
Voilà, donc voilà. Je ne me souviens plus du tout de la modification.
Il me semble qu'il y a des scènes sur un quai de gare, non ? Enfin, ça peut être après les vaches, je sais pas.
Cela dit, le nom de Butor, je l'ai noté aussi. Mais à ce point-là, répétitif et bouclé, tournant en rond, moi, je ne vois que Gertrude Stein, ou alors un petit peu Nathalie Sarraute, parfois, quand elle joue avec un texte, mais la thématique ne colle pas. Donc, je dis Gertrude Stein.
Il n'y a que des grandes pointures, hein. Patrice Minet, est-ce que vous avez un nom à nous suggérer ?
J'avais également noté Michel Butor et la modification.
Ah bon ?
Et parce que ça sent son Butor. Et puis, c'est tellement une parodie que j'aurais envie de dire Michel Butor, mais je préférais dire un autre nom, Marguerite Duras, et se moquant de Michel Butor.
Sophie Divry.
Non, Butor ou Sarraute, surtout pas. Non, moi, j'irais plus carrément, je pense, c'est Catherine Pancol.
La même chose, oui.
C'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué, il avait une chemise verte et des boîtes marron, et il entra, il pousse à la porte, il ferme à la porte, mais je pense quelque chose comme ça de ce niveau-là. J'avais pensé aussi à Marguerite Duras, mais ça t'est déjà pris. Donc je vais rester sur Catherine.
Vous voulez être courageuse et perdre ou gagner
Il y aurait eu un S à brique.
le correcteur d'orthographe l'aurait mis.
Est-ce que vous avez une idée dans la salle ? Allez crier des noms si vous en avez.
Boris Vian.
Non, il y a des gens qui disent non, mais c'est son choix. Hein. Oui. Boris Vian et puis
Sagan.
Ah, mais ça c'est pas mal.
Ouais, j'avais noté Sagan aussi, mais.
Pardon ?
Giono.
Ah, non.
Au début.
Giono, un jour où il avait bu.
Non, il n'avait pas bu.
Ou Miller, Henri.
André Miller, je l'ai noté aussi.
Bon, écoutez, il y a le choix. Alors, je récapitule, dans la salle, nous avons un Vian, une Sagan, un Giono, un jour de biture, je ne sais pas. À la table, nous avons un Miller, bien sûr, par madame qui a l'air assez sûre d'elle. Hein. Attention. Alors, à la table, nous avons Michel Butor pour Hervé Le Tellier, Marguerite Duras pour Patrice Minet, Gertrude Stein pour Eva Almassi et Catherine Pancol pour Sophie Divry. Ma foi, il y a le choix. Alors, vous avez écrit sur une feuille de papier trois noms, parmi lesquels se trouve le vrai, il ne triche pas, hein. Il les a écrits à l'avance. Oui. Quels sont-ils ?
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 10 noms qui ont été proposés.
Oui.
Et pour la première fois, vous allez découvrir que dans les trois noms que j'avais choisis, il n'y en a aucun de la liste qui n'en était.
Ah, tout le monde a perdu.
Alors, voici dans l'ordre alphabétique, peut-être des écrivains un peu plus populaires que ceux que vous avez cités.
Oui.
Je vous propose Jean d'Ormesson, Antoine de Saint-Exupéry et Virginia Woolf.
Par ordre alphabétique, oui. Alors, Jean d'Ormesson, Antoine de Saint-Exupéry et Virginia Woolf. Désolée hein, pour tous ceux qui ont perdu, mais c'est le jeu. Oh, ce serait pas drôle, c'est jamais très drôle de gagner. Alors, maintenant, il faut vous décider.
Voilà, je vais décider que c'est Virginia Woolf, alors que je me dis toujours que j'ai tout lu d'elle et que ça ne ressemble pas à ça, a priori.
Oui.
Par contre, alors, elle a fait un livre, au moins un, où il y a des expériences collectives de pensée,
oui.
Et où chaque personnage, mais il s'appelle Perceval et pas du tout Gilles et Isabelle dans mon souvenir, sont caractérisés par un des sens. Quelqu'un voit mieux, un autre entend mieux, un troisième sent mieux. Donc, elle fait ça systématiquement.
D'accord.
Et c'est la systématisation de ce texte qui me fait penser à elle.
Bon, un Virginia Woolf. Patrice Minet. Oui, il est embêté.
Non, parce que je veux faire de peine à personne.
Oui.
C'est parce que au moins un de ses auteurs est encore vivant. Voilà. Alors, nous avons quand même dans ce texte une répétition sur l'ambiance, la chaleur, le soleil, qui me fait penser au désert. Mais dans ce texte, nous avons les vaches.
Ouais. Dessine-moi une vache.
Voilà.
C'est pas si loin du mouton.
Le plancher des vaches.
Ouais.
Voilà. J'aurais bien pris Saint-Ex. Ou alors, il est perdu. Il a atterri donc avec son avion dans le désert. Et puis, il n'a plus d'eau depuis un certain temps.
Ah oui.
Il voit donc des chiens qui traînent avec des pousses qui tombent. Et il s'assoit sous un palmier qui n'existe pas. Et il commence à prendre des notes avec tous ces gens qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà.
Et donc ?
Je dirais donc Saint-Exupéry, très malade.
C'est bien. Sophie Livry, vous votez pour qui ? Elle est embêtée.
La personne qui serait la plus proche de Catherine Pancol, c'est quand même Jean d'Ormesson.
Oui.
Ah là, c'est très méchant. Ça va pas aller.
Vous êtes d'accord ?
Charmante.
Non, mais Virginia Woolf aurait pu écrire ça très très jeune, mais on l'aurait pas publié même
posthume.
Oui, voilà, non, on n'aurait pas fait cet affront, je pense.
Alors Jean d'Ormesson. Et Hervé Le Tellier, tout a été nommé.
Oui.
Vous allez suivre qui ?
Je suis désespéré. Je déteste ce jeu. Eh bien, je ne crois pas du tout à Virginia Woolf. Voilà, Saint-Ex. Mon camarade l'a tellement bien défendu que je ne vais pas le prendre. Donc je vais prendre Jean d'Ormesson en me disant que peut-être, à un moment donné, en ouvrant la Pléiade au hasard, on trouve un morceau de texte pareil, mais je ne vois pas où ça peut se trouver. Mais je connais assez mal l'œuvre de Jean d'Ormesson.
D'accord.
Donc voilà.
Alors nous avons...
Jean d'Ormesson.
Deux Jean d'Ormesson pour Sophie Livry, pour Hervé Le Tellier. Un Virginia Woolf pour Eva Almassi. Un Saint-Exupéry pour Patrice Minet. La salle, elle est majoritairement pour qui ? Saint-Ex, Virginia Woolf. Et Antoine, non, personne ? Ah ben si, Saint-Ex, vous avez dit, c'est lui, Antoine.
C'est Antoine, il s'appelait Antoine, c'est exact.
Je voulais dire Jean. Non, personne. Alors c'est qui, Lucas ?
Alors l'histoire se passe en juin 1939, dans la campagne anglaise, et c'est tiré de... Entre les actes, de Virginia Woolf, qui est le dernier livre de Virginia Woolf, pas le premier, le dernier, mais l'histoire n'est pas du tout celle que Eva nous a racontée.
Non, non, non,
c'est une pièce de théâtre qui se joue à la campagne, et entre les actes, eh bien, il fait chaud et on attend la scène suivante. Donc c'est le dernier livre de Virginia Woolf, puisqu'il a été publié en 1941, et qui est l'année de sa mort.
Et il n'y a pas eu de film d'après ce livre-là.
C'est non, sur ça. Les vaches, il n'y a rien eu encore.
Non, mais on comprend qu'elle se soit suicidée après ça.
Je ne sais pas.
Et alors, bravo Eva.
Bravo Eva Almassi et les quelques personnes dans la salle qui ont dit Virginia Woolf. Vous êtes sur France Culture, vous êtes bien, non? Et vous écoutez les papous dans la tête, tout amour. Un petit instru de Gabriel Godard, et puis ensuite on récupère nos deux dissertants, Patrice Comon et Jean-Bernard Pouy. C'était une gavotte de Egon Obert. Alors, on retrouve Patrice Comon et Jean-Bernard Pouy avec leurs dissertations et leurs examinateurs, Eva Almassy et Patrice Minet. Si on commençait par vous, Patrice Comon.
Oui, hein, oui.
Donc, vous avez travaillé sur un sujet d'Eva Almassy. Elle va donc vous corriger. Alors, vous allez...
Maîtresse.
Ça va être le niveau de la dissertation.
C'est un peu le niveau de la dissertation.
Vous nous relisez le sujet en insérant donc cette citation que vous avez imaginée à partir des deux mots imposés. Donc,
le sujet commence par la citation. La pomme d'Ève était à éplucher, pas à croquer. Le désir se développe et se déshabille comme on pèle un oignon. Il n'y a pas de cœur ni de noyau au centre du désir. Lorsqu'il a touché la pomme, Adam a touché l'arbre de la connaissance et s'est retrouvé tout nu, le petit oiseau à l'air.
Mais c'était le deuxième élément donné par Eva.
En se disant que la pensée n'était que du jus de pomme et que la libido ne valait pas un coup de cidre.
À partir de là, vous traitez le sujet, donc, oui. Qui consistait... Eva, relisez-nous la fin de votre sujet.
En vous servant de cette citation du discours de la méthode de Descartes et à l'aide des philosophes des Lumières, éclairez-nous sur cet obscur objet du désir. Qu'est-ce qui le véhicule dans nos vies? Est-ce le sens, les sens ou l'apostrophe essence? Est-ce un avion puisqu'on parle des ailes du désir? Est-ce un tramway puisqu'il emporte le nom? Est-ce un 3 tonnes puisque l'objet de notre désir est souvent beau comme un camion et que la passion est un excès de désir?
Bon, c'est un très beau sujet, on l'avait dit tout à l'heure, oui. On le redit, hein. Donc vous étiez à l'aise?
C'est un sujet magnifique, madame.
Vous étiez à l'aise pour le traiter? Oui,
oui.
Bon, allez.
L'essence précède-t-elle l'existence? La réponse est non, pour Kierkegaard et Hegel, mais l'essence précède l'existence pour les Émirats du Golfe.
Ouais.
Le sens, c'est le bon sens, qui pour Descartes est la chose au monde la mieux partagée. Les sens, ce sont les instruments de contact avec le monde. iPhone, iPad, tablette. L'essence, c'est le Wi-Fi de l'âme. L'essence, c'est le symbole d'un cours qui monte et qui descend, mais qui permet d'avancer.
Oui.
Comme disait Lévinas, il n'y a pas baril en la demeure. Le désir est à la concupiscence, ce que l'essence est au gasoil. Le point commun à ces trois concepts, c'est la panne. La panne d'essence peut être un prétexte. Si elle est fausse et prétendue, un prétexte à activer le dur progrès assez lent en amour et grâce au plafonnier de la bagnole, d'éclairer un minimum l'obscur objet du désir.
Ouais, comment on suit, hein ?
La panne d'essence, par contre, c'est un peu le refus d'obstacle, en concours hippique, le manque d'appétence. Comme disait Lacan, quand la libido fait dodo, le stress a bon dos. La panne de sens, c'est pas nécessairement le non-sens. Ou est simplement, on dirait Derrida, on est dans l'insensé, dans le peu dit, dans le tu, dans l'insensé, mais pas le non-pensé. Ça ne veut rien dire. Et ça ne dit rien. Les plus grands philosophes ont eu souvent, en général au chapitre 3 de leur traité, ce qu'on appelle un coup de mou, une panne de sens. Ainsi, Kierkegaard ou Schopenhauer, sans oublier Husserl, sont des étoiles, mais ont aussi leur trou noir. C'est là, bien sûr, que les exégètes se précipitent comme mouches sur le miel. Donner du sens, du signifié à l'insignifiant, c'est résumer toute la dématérialisation de la philosophie contemporaine. Le désir de dire sur le non-dit, sur l'indicible, a fait évoluer la philosophie. Il ne s'agit plus de concevoir. La philosophie cesse de penser pour devenir une langue. Elle devient épistémologie, linguistique, une science d'elle-même en miroir, et donc un miroir aux alouettes. Pour répondre à votre question, le désir est-il un avion ? Oui, certes, répondit Simias, mais un avion à réaction, souvent un mirage, qui ne songe qu'à aimer en rafale, mais qui est prêt à se vendre au premier étranger venu. Le désir est-il un tramway ? Oui, et c'est le sens de tous les trams de Shakespeare. Depuis qu'il y a le tramway à Bordeaux, les naissances ont explosé. Cause à effet, dirait Spinoza. Là, le correcteur pourrait se dire, élève commun, tu ramouais. Et je répondrais, panne de sens. Mais un seul retour à la ligne, et je repars. Est-ce... très mal écrit ? Oui. Est-ce un 3 tonnes ? Là, c'est réduire le désir à peu de choses. L'homme porté par le désir, dans le genre paranucial, est plutôt du genre à en faire des tonnes. Donc le désir est au moins un 15 tonnes. Revenons à Descartes.
Il a tant, hein.
Qui dit dans le traité des passions que le désir, quand le corps se sépare de l'âme, est bon pour la santé. Et que, sacré Descartes, l'amour permet de mieux digérer les viandes dans l'estomac. Ça ne s'invente pas, madame l'examinatrice. Pour conclure, je ferai référence au prix Nobel. Le dur désir de durer dépend-il du taux de testostérone ou d'un chatouillement poétique des neurones ? Écoute, mon ami, la réponse est dans le vent. Descartes a raison. La pensée de l'arbre de la connaissance, c'est du jus de pomme, et Newton en a fait son beurre.
C'était pas facile quand même, hein, écrit en une demi-heure. Alors c'est, oui, bravo, on peut lui dire, hein. Alors, une très rapide correction, Eval Massy. D'abord, une note.
Ah ben, d'abord, la note, c'est 3 tonnes plus 15 tonnes, ça fait 18 sur 20. Alors, vraiment, il s'est un peu égaré chez Lacan, Derrida et autres Lévinas, c'est propre, dans son propre monde. Par contre, il est retombé sur Newton que j'attendais depuis le début.
Oh, formidable.
À la fin, bravo. Et puis, il n'est pas tombé dès le début avec sa citation et l'art de la connaissance.
Oui, c'était pas si loin de la vôtre.
Mais, parce qu'il n'est pas tombé dans le piège, puisque dans les Lumières, le désir est avant tout un désir de connaissance et de science. Donc, bravo. Alors, la citation était plus simple et plus moins hard, disons, dans le discours de la méthode. L'exacte citation, c'était...
Enfin, la vraie fausse, quoi.
La vraie fausse. Nos sens souvent nous trompent. On se croit touché en tel endroit du corps et le désir de voler se satisfait lorsque le petit oiseau va sortir de son nid au milieu d'un songe.
C'est joli.
C'est bien le désir du rêve.
Bon, ben, Content, hein, Patrice, non, comment un bon gros 18, ça fait plaisir.
Oh oui, c'est la mention.
Oui, absolument, la mention, très bien, oui. Alors, Jean-Bernard Puy.
Moi, ça ne va pas être mon cas.
Attendez, Jean-Bernard Puy, vous avez traité le sujet de Patrice Minet, qui était un bon sujet intéressant.
Ouais, enfin, traiter un sujet, c'est formidable, mais d'après une citation de Luc Ferry.
Oui.
Là, on va voir la différence avec Derrida. Hein.
Alors, de toute façon, vous aviez pour mission d'imaginer cette citation à partir des deux mots que vous avez confiés Minet. C'était quoi déjà les mots, Minet ?
Naphtaline et Platon. À la vieille question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Certains pourraient répondre, aboutissant ainsi ironiquement au savoir socratique de sa propre ignorance, et pourquoi pas ? Et d'autres de rétorquer, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? En vous appuyant sur votre connaissance de la maïeutique et votre histoire personnelle, montrez comment cette réflexion se régénère avec les réflexions suivantes. Premièrement, pourquoi y a-t-il quelque chose ? Deuxièmement, pourquoi y a-t-il ? Troisièmement, pourquoi ? Et enfin, quatrièmement, de quoi ? Sans oublier, et pourquoi moi ?
Oui, c'est pas mal, c'était porteur quand même.
Alors, oui, c'est très porteur.
Qu'est-ce que ça donne, ce sujet, avec votre citation, Jean-Bernard ?
Ce n'est pas parce qu'on met Descartes dans la naphtaline pour ressortir le vieux Platon qu'il faut abandonner de penser juste.
Oh, bah, c'est bien quand même. Hein.
Tout ça, c'est de la maïeutique, et comme je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, maïeutique, j'en ai profité.
Alors, vous traitez le sujet.
Alors, Descartes encore, c'est bizarre, mais Descartes revient.
Oui.
Oui. Penser. En avant la maïeutique. Pourquoi la maïeutique, d'ailleurs ? Mais pourquoi pas la maïeutique ? Je pense, donc je suis. Je suis, donc j'existe. J'existe, donc je souffre. Je souffre, donc je sens. Je sens, donc j'espère. J'espère, donc j'ai peur. J'ai peur, donc je ne dors pas. Je ne dors pas, donc je construis. Je construis, donc j'échafaude. J'échafaude, donc je théorise. Je théorise, donc je choisis. Je choisis, donc je me trompe. Je me trompe, donc je suis humain. Je suis humain, donc j'ai faim. J'ai faim, donc je mange. Je mange, donc je me détruis. Je me détruis, donc je regrette. Je regrette, donc je pleure. Je pleure, donc je me calme. Je me calme, donc je m'ennuie. Je m'ennuie, donc je me traîne. Je me traîne, donc je suis en danger. Je suis en danger, donc je me protège. Je me protège, donc je me durcis. Je me durcis, donc je suis méchant. Je suis méchant, donc je blesse. Je blesse, donc je brise. Je brise, donc je suis injuste. Je suis injuste, donc j'ai honte. J'ai honte, donc je pleure. Je pleure, donc je me demande. Je me demande, donc j'hésite. J'hésite, donc je tranche. Je tranche, donc j'ai tort. J'ai tort, donc je me cache. Je me cache, donc je disparais. Je disparais, donc je suis vide. Je suis vide, donc je réagis. Je réagis, donc je travaille. Je travaille, donc je trouve quelque chose. Je trouve quelque chose, mais pourquoi y a-t-il tout de suite quelque chose ? Pourquoi y a-t-il tant de haine ? Donc pourquoi je pense à ça ? À quoi d'ailleurs je pense ? C'est simple, c'est parce que c'est moi qui pense. Et si je pense, donc je suis, c'est pas... Et pourquoi ne serais-je pas puisque je pense ? Hein ? Et si je pense, c'est parce que je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est parce que je n'ai rien appris. Si je n'ai rien appris, c'est parce qu'on ne m'a pas aimé. Si on ne m'a pas aimé, c'est parce que je suis transparent. Si je suis transparent, c'est parce que je n'ai pas d'épaisseur. Si je n'ai pas d'épaisseur, c'est que le style me manque. Si le style me manque, c'est parce que Descartes en a eu pour moi. Et si Descartes en a eu pour moi, c'est parce qu'il n'y en avait pas chez Platon. Il faut être au moins Luc Ferry pour s'en apercevoir. Les questions posées sont donc, pourquoi y a-t-il Platon ? Pourquoi Platon ? Pourquoi y a-t-il Descartes ? Pourquoi Descartes et pas Platon ? Et la réponse est évidemment parce que.
Bravo. C'est un devoir brillant. Bon, il n'est pas scolaire, mais c'est magnifique. Non,
ah, c'est
Patrice
superbe. Minet. Oui, c'est superbe.
Il répond pas mal à vos questions en plus, hein, mine de rien.
Il répond à des questions. Mais il fait un petit peu mieux que ça, à mon sens.
Oui.
C'est qu'il répond à des questions en posant des questions.
Oui.
La maïeutique demande de poser des questions pour trouver des réponses.
Oui.
En soi.
Oui, mais il ne savait pas ça.
Non, mais il n'avait pas besoin de savoir puisqu'il l'a fait.
Oui, spontanément.
Voilà. Mmh. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment magnifique. Mmh. D'autre part, évidemment que c'est un texte où la citation était une espèce de devinette.
Oui, alors, c'était quoi ?
Eh bien, cette façon de procéder de Jean-Bernard Pouy, c'est aussi une suite de devinettes dont il donne à chaque fois la réponse.
Oui.
C'est-à-dire que, en traitant le sujet, il répond aux questions, et en répondant aux questions, il traite le sujet.
Il est très fort, hein ?
Voilà, il est encore plus fort que la maïeutique.
Et j'ai l'impression qu'il ne comprend rien à votre corrigé. Est-ce que vous donnez une note, Patrice Minet ?
Une note ?
Oui.
Bah, je ne peux pas donner moins que 20, puisqu'il est, il est meilleur que le texte...
Que Luc Ferry, oui.
Oui, alors, c'est la question.
20, mais bravo, aussi, Jean-Bernard Pouy.
La citation.
Oui, ah ouais. Oui, s'il vous plaît, la fausse citation.
La citation de Luc Ferry, le malheureux. Ce n'est pas en balançant des boules de naphtaline dans sa caverne que Platon nous a débarrassé des mythes.
Les papous, tout amour en public au Studio 105, fin de la première partie. Une émission proposée par François Strossard, avec Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Romain Lenoir, Régis Nicolas. Attaché de production, Marie Dalquier, Marie qui a fait des photos de cette soirée, à découvrir à la page des Papous du jour et surtout sur notre page Facebook où nous pouvons en mettre beaucoup, beaucoup. Rejoignez-nous pour partager un peu d'amitié virtuelle, c'est pas si mal quand c'est sincère. Un numéro du Papou à podcaster pour vos archives de Papou public, à réécouter dès que le désir vous prend. On se retrouve dimanche à 12h50 pour la suite des Papous tout amour. Au menu, les femmes selon Gérard Mandilla, bourrimer, périphrase en folie, l'amour de soi avec selfie, les peines d'amour propre du fromage de la fable et la pub sur les stoïciens. Au revoir, prenez bien soin de vous et passez un bel après-midi sur France Culture.